Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, levons nos yeux vers une constellation visible surtout au printemps, mais aussi jusqu'au début de l'été. Une constellation qui est dans une région du ciel très riche en étoiles brillantes et en constellations. Une constellation qui représente un héros grec et qui en porte le nom, c'est le héros grec qui tua la Méduse. C'est bon, vous l'avez ? Eh oui, il s'agit de Persée. Sa position peut être repérée en prenant l'alignement qui part du grand carré de Pégase et remonte le long de la diagonale d'Andromède, en passant par ses deux étoiles les plus brillantes, jusqu'à Algol de Persée et Capella du Cocher. Inversement, on peut partir de Capella, l'étoile la plus brillante de la région, et repérer ses voisines, Algol et Mirfak, dans la direction de l'ouest. On peut également se repérer à partir de Cassiopée, en suivant l'alignement de la barre médiane de son W, en direction du sud-est, alignement qui tombe sur Mirfak, alpha de Persée. Enfin, on peut remonter l'alignement qui part de Rigel, le pied d'Orion, et passe par Aldébaran du Taureau, une autre étoile très lumineuse, puis tombe sur Algol, bêta Persée, avant de rejoindre Cassiopée dans l'axe du bras droit de son W. Persée est une constellation placée dans un environnement très riche. Elle se trouve en effet sur la Voie lactée. Ce qui veut dire que quand on regarde dans la direction du ciel désignée par Persée, on regarde notre propre galaxie. Une grande quantité d'étoiles sont donc visibles. La constellation est bien entourée. Mais quand on regarde Persée, on regarde une zone plutôt peu dense de la Voie lactée, car on regarde vers l'extérieur de notre galaxie. La Voie lactée, notre galaxie, contient à peu près 200 milliards d'étoiles. Ce sont des étoiles organisées en un disque. Elles tournent autour du centre galactique comme les planètes tournent autour du Soleil. Mais elles ne sont pas uniformément réparties dans ce disque. Il y a des bandes plus ou moins denses, presque à l'image de l'orbite des planètes autour du Soleil. Plus on s'éloigne du centre galactique, plus ces bandes sont nettes, car séparées par des zones de matière interstellaire, constituées de gaz ou de poussière. On dit que notre galaxie est spirale. Le Soleil et le système solaire, c'est-à-dire nous, nous sommes situés plutôt à la périphérie de la galaxie. Alors, quand on la regarde, quand on regarde la Voie lactée, on voit des zones plus ou moins densément peuplées d'étoiles. Par exemple, quand on regarde vers la constellation du Sagittaire, on regarde vers le centre de notre galaxie. Alors que vers Cassiopée, on regarde plutôt vers l'extérieur. Il y a donc moins d'étoiles, Cassiopée semble plus isolée. Revenons à Persée, notre héros. La forme de la constellation n'est pas forcément très simple à repérer, mais elle ressemble à une étoile à cinq branches. Les deux premières étoiles les plus visibles sont Mirfak, alpha de Persée, qui marque le cou de Persée, et Algol, bêta Persée, plus au sud, qui marque le pied ouest. On voit rapidement apparaître ensuite Eta de Persée au sud, le pied est, et Gamma de Persée au nord, la pointe de son chapeau. L'étoile brillante située au milieu du bras ouest, Delta Persei, est parfois considérée comme constituant l'épée de Persée. La limite des constellations entre Persée et Andromède est très dentelée dans cette zone. La main de Persée semble presque saisir le pied d'Andromède. Il s'étend au-delà d'une zone qui appartient déjà à Andromède. Persée est généralement dessinée en tenant dans sa main la tête de Méduse. Et celle-ci est représentée par Gorgona Secunda, c'est Pi de Persée, Gorgona Tertia, Péta de Persée, et Gorgona Quatra, Omicron de Persée. Algol, Gorgonea Prima, forme quant à elle l'œil de la Gorgone. Ces quatre étoiles sont celles qui forment le pied immédiatement au sud d'Algol.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
Persée est le petit-fils de Danaé, fille du roi d'Argos, Acrisios. Ce dernier, averti par un oracle que son petit-fils le tuera, enferme sa fille dans une tour d'airain, ce qui n'empêche pas Zeus de la séduire sous forme d'une pluie d'or. Décidément, Zeus est extrêmement inventif quand il s'agit de séduire les princesses. Persée naît donc dans le secret. Révélé à son grand-père par ses cris, il est enfermé dans un coffre avec sa mère et jeté dans les flots, qui les porte jusqu'à l'île de Sériphos. Tous deux sont accueillis par un pêcheur nommé Dictys, qui élève le garçon comme son fils. Devenu adulte, Persée se voit confié par Polydecte, le roi de l'île, la mission de tuer la Gorgone, Méduse, dont le regard pétrifie ceux qui l'atteignent. Il sort vainqueur du combat, grâce aux armes magiques remises par Hermès et Athéna. En particulier un miroir, grâce auquel il peut éviter de regarder la Gorgone en face. Il passe sur le chemin du retour par l'Éthiopie, où il rencontre la princesse Andromède, qui doit être livrée à un monstre marin, en punition des paroles imprudentes de sa mère Cassiopée. Sortant la tête de Méduse de son sac, il affronte ainsi Cétus, le monstre marin. Il se trouve que c'est aussi le père de la Méduse, mais ça c'est sans doute une autre histoire. Persée délivre Andromède et l'épouse. C'est pour ça que les constellations de Persée et d'Andromède semblent se tenir la main. Si vous regardez Persée en fin d'été, vous avez de fortes chances de voir des étoiles filantes. En effet, près de Gamma Persei se trouve le radiant des Perséides, un essaim de météorites qui provoque chaque année une pluie d'étoiles filantes aux alentours du 12 août, appelé aussi les larmes de la Saint-Laurent, dont la fête tombe le 10 août. Alors, qu'est-ce que c'est donc ces étoiles filantes ? Des phénomènes lumineux très courts qui sillonnent le ciel d'été. D'ailleurs, c'est le ciel de toute l'année, mais on a plus tendance à les repérer l'été. Une étoile filante est donc un phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps, appelé météoroïde. Il s'agit d'un petit corps circulant dans l'espace. Lorsque son orbite croise celle de la Terre, la météoroïde va entrer dans l'atmosphère et être vaporisée entièrement, provoquant une traînée lumineuse. La météoroïde laisse derrière elle un sillage de gaz très chaud, ionisé et lumineux, que l'on nomme un plasma. Et c'est cette trace que l'on voit quelques instants dans le ciel. Contrairement à une image bien ancrée, cette traînée n'est pas due d'abord à la friction de la météoroïde dans l'atmosphère, mais plutôt à la compression de l'atmosphère en avant du météoroïde. En effet, il entre dans l'atmosphère avec une vitesse supérieure à celle du son. Et un peu à l'image de l'avion supersonique, ça entraîne une surpression de l'atmosphère en avant de lui. C'est ce phénomène qui est lumineux. La température peut monter quand même à plusieurs milliers de degrés à la surface de l'objet. Alors, quels sont ces petits cailloux qui illuminent nos ciels d'été et sont censés réaliser nos vœux ? Principalement, ce sont des poussières ou des glaces qui ont été laissées dans le système solaire, sur l'orbite de la Terre, par des comètes. Les comètes, ces phénomènes majestueux qu'on a la chance de voir pendant quelques jours, comme Neowise qu'on a pu admirer en juillet 2020, ou pendant quelques mois, comme Elbop, qui a été visible près de 18 mois en 1997. J'en garde personnellement un souvenir très ému, admirant tous les soirs en rentrant du lycée ce trait dans le ciel en face de moi. Bon, certainement, la plus connue de toutes les comètes, c'est celle de Halley. Les comètes sont des objets qui orbitent autour des étoiles, avec parfois d'assez grandes orbites. Elles sont constituées d'un noyau de glace et de poussière interstellaire. Bon, en gros, c'est de la neige sale. Et quand elles approchent du Soleil, la glace se met à fondre. Le noyau s'entoure d'une sorte de fine atmosphère brillante, constituée de gaz et de poussière, qu'on appelle chevelure, ou coma. Souvent prolongée par deux traînées lumineuses, également composées de gaz ou de poussière, les queues. L'une des queues est de gaz ionisé et l'autre est une queue de poussière, qui peuvent s'étendre sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Les poussières contenues dans la comète restent donc là, et elles ne suivent plus leur comète qui, elle, navigue à 42 mètres par seconde. Et c'est quand la Terre croise les nuages de poussière laissés par les comètes que ces poussières entrent dans l'atmosphère et forment des étoiles filantes. Si le météoroïde est de taille et de masse plus important, on appelle alors l'étoile filante un bolide. Il produit un disque lumineux intense lors de sa rentrée dans l'atmosphère, dont l'éclat semble aussi durer plus longtemps. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir ces étoiles filantes qui sont plus grosses et qui durent plus longtemps que les autres. Un météoroïde peut aussi se fragmenter, en général en dessous de 50 km d'altitude, ou alors il atteint le sol, le météoroïde lui-même ou ses fragments, devenant ainsi des météorites. Les météorites sont les restes de météorites que l'on trouve sur Terre. Le phénomène se passe en général entre 85 et 120 km d'altitude, bien que certaines étoiles filantes puissent être visibles de 400 à 600 km au-dessus du sol. Vous le savez sûrement, il y a des moments plus propices que d'autres pour voir des étoiles filantes zébrer le ciel. La raison est simple. Chaque année, à la même période, la Terre va venir traverser des nuages de poussière laissés par les comètes. Et en les traversant, ces poussières vont former des étoiles filantes. Et à une même période, les étoiles filantes donneront l'impression de venir du même endroit du ciel. On appelle cette zone le radiant. Les Perséides sont l'essaim de météores dont le radiant semble sortir de la constellation de Persée. Elles sont issues de débris de la comète Swift-Tuttle. Cette comète a été découverte en 1862 par deux Américains, Swift et Tuttle. Elle a été revue ensuite proche de la Terre en 1992. Il est probable qu'elle ait été aussi découverte en 68 avant Jésus-Christ, en Chine, et également en 188 après Jésus-Christ. Cette comète est très surveillée, car d'après les prévisions, en 3044 et en 4479, elle devrait passer très très près de la Terre, ce qui fait craindre aux scientifiques une possible collision. En moyenne, on peut généralement observer avec les Perséides 100 étoiles filantes par heure. À partir du 20 juillet environ et jusqu'aux alentours du 25 août, avec un maximum habituellement situé entre le 11 et le 15 août. La nuit la plus active des Perséides, c'est celle du 12 au 13 août, de 2 à 5 heures du matin. C'est l'essaim le plus spectaculaire et le plus populaire de l'année, étant donné qu'il se produit pour l'hémisphère nord dans la période estivale. Mais il en existe d'autres. Les Orionides, par exemple, qui sont issues de la comète de Halley, semblent venir de la constellation d'Orion. Elles sont visibles en automne et elles ont leur maximum en début novembre. Les états aquarides, visibles à chaque printemps, sont aussi issus de la comète de Halley. L'essaim le plus actif, c'est les Quadrantides, entre le 1er et le 6 janvier. Elles semblent issues de la constellation du Bouvier. Elles s'appellent les Quadrantides en souvenir de l'ancienne constellation du Cadran Mural, qui se trouvait dans cette zone. Cet essaim peut donner jusqu'à 200 météorides à l'heure. Il vous faudra quand même bien du courage pour observer le ciel en plein hiver. D'ailleurs, pour bien observer les étoiles filantes, il vous faudra être bien installé, car on ne sait pas trop quand elles vont apparaître. Il faut donc observer pendant une longue période pour avoir le plus de chances d'en voir. Donc, on s'allonge, au chaud, on repère bien l'endroit d'où elles doivent provenir et, on attend. Et quand une traînée zèbre le ciel, alors là, on s'émerveille.